Voilà, bonjour, les frères et sœurs de la région, magnifique. J'habite à Pompigny, personnellement, donc de temps en temps, il m'arrive d'aller au culte, à l'église réformée, au temple. Et puis, plus officiellement, je suis membre de l'église de Ballan, l'église de la Frée, c'est aussi dans un temple, à Ballan. Et puis, il nous arrive aussi d'aller à la Ch'tami, à Lille. Et puis, de temps en temps, mieux sentir un petit peu les choses. Ça me donne une idée de la région, mieux sentir un petit peu les choses. Je suis émerveillé de voir des belles images. C'est bien, j'ai un écran de retour, c'est beau. Voilà, je suis depuis quelques mois dans le livre de Jérémie. On m'a demandé d'écrire des notes pour le guide de la Ligue. Et puis, ce prophète, je le trouve étonnant. C'est très très fort, ce livre de Jérémie. Il n'a qu'un petit problème, c'est qu'il a 52 chapitres, mais je me suis arrêté sur les chapitres 2 à 6. Et c'est vrai qu'il y a une phrase en particulier qui m'a touché, que j'aimerais lire avec vous. C'est un double mal que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Alors, il faut imaginer un pays comme Israël, où Jérémie habitait, dans la tribu de Benjamin, à côté de Jérusalem. Il y a une saison des pluies, puis il y a une saison sèche. Il faut pouvoir se renouveler, se permettre qu'on puisse trouver de quoi à la fois se désaltérer, physiquement parlant. Et puis, pour arroser les champs, il faut de l'eau aussi. Et puis, il y a des zones où il y a très aride, où il y a des déserts. Or, c'est un problème très, très important, d'ailleurs. On y est confronté maintenant sur beaucoup de pays, dans beaucoup de pays de la planète. Et voilà, du temps Jérémie, on est content si on a des sources. Et puis sinon, il faut essayer de trouver des astuces. Donc, on construit des citernes. Pratiquement dans chaque maison, il faut une citerne et on peut recueillir l'eau de pluie. Problème, c'est que cette eau de pluie, suivant son cheminement, elle arrive dans des citernes, ça passe peut-être sur de l'eau, ça prend de la terre, de la poussière, peut-être d'autres choses. Il y a des animaux, etc. Donc, elle n'est pas toujours si pure que ça. Et puis, elle peut occasionner des maladies. Alors, tout ça, bien sûr, est transcrit et à transcrire au plan spirituel. C'est une image aussi de ce qui peut nous ressourcer. Alors, la Bible présente, bien entendu, Dieu comme une source, Jésus comme une source incroyable. Et puis, il y a malheureusement aussi d'autres choses qui sont plus délicates. Alors, on va parler un peu de Jérémie aussi en le situant comme un prophète qui a été, qui a eu un ministère très, très long, de plusieurs dizaines d'années, dans un temps de crise. Alors, on va mettre temps de crise. C'est une période très, très mouvementée en Israël. Et c'est un temps d'apostasie. L'apostasie, c'est-à-dire, c'est le rejet de Dieu, l'abandon de Dieu, du Dieu vivant, du Dieu de l'Alliance, du Dieu qui a œuvré d'une manière tellement remarquable tout au long de l'existence du peuple d'Israël. Et cet abandon de Dieu, il est redoutable, parce qu'on met en oubli la bonté et la fidélité de Dieu. On pense qu'on peut être autonome, qu'on peut se débrouiller avec les pratiques religieuses, quelle qu'elle soit, et c'est là le drame de ce peuple, c'est qu'il se tourne vers des idoles de toutes sortes. Et je ne peux pas m'empêcher, quand j'analyse un petit peu ces éléments, de me dire, mais si Jérémie revenait aujourd'hui, que dirait-il de notre société, notamment de notre société suisse, où on a eu comme référence pendant longtemps quand même notre constitution fédérale, faite au nom du Dieu vivant, du Dieu trois fois saint, et voilà, qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas une faim et une soif spirituelle malgré tout aujourd'hui? Après des périodes de matérialisme très marquées, peut-être qu'il y a eu depuis quelques années un retour à la spiritualité. Est-ce qu'elle s'abreuve vraiment à la source qu'est Jésus-Christ? Ou bien est-ce que c'est un peu n'importe quoi? Et à travers tout le mouvement du Nouvel Âge, je pense qu'il y a bien des questions à se poser. C'est intéressant aussi de constater que du temps de Jérémie, dans le fond, son premier discours, c'était auprès d'un roi qui s'appelle Josias, Et c'était un homme fidèle à Dieu. Il a vécu un réveil magnifique, si vous lisez le récit de la vie de Josias dans le livre des Rois. Et on peut s'étonner que Jérémie puisse avoir parfois des paroles si sévères, des paroles de jugement redoutables par rapport à ce peuple d'Israël alors qu'il commence ses discours du temps du roi Josias. C'est que le réveil du temps de Josias a été éphémère. C'est-à-dire que il n'a touché que peu de personnes en Israël et n'a pas été suffisamment en profondeur. Et Dieu voit très bien dans les cœurs ce qui se passe. C'est pour ça que ce message peut aussi nous interpeller dans notre manière de suivre le Seigneur, et j'en dirai quelques mots tout à l'heure. Ce qui m'a touché surtout dans le livre de Jérémie, c'est la tristesse de Dieu. Quand Dieu constate ces éléments d'infidélité, d'aveuglement, prenons cette parole au début du chapitre 2, « Je me souviens de ton amour de jeune fille, de ton affection de fiancée. Tu me suivais alors dans le désert, sur une terre impossible à ensemencer. Israël était consacré à l'Éternel. Il était la première partie de sa récolte. » Ce sont déjà dans l'Ancien Testament, tout au long de Jérémie, des paroles d'un père qui est tellement triste de voir que ses enfants marchent dans l'ingratitude, dans l'oubli. Ça fait mal. La relation est coupée, quelque chose qui ne joue pas. C'est aussi l'image d'un mariage, un mari qui a été bafoué, trompé. L'adultère, c'est jamais anodin. Ça fait très très mal. Alors il appelle à la repentance, ce Dieu-là. Et ce qui m'impressionne, c'est que même s'il y a une menace de jugement, ce n'est pas à la va-vite, à l'emporte-pièce. Ce n'est pas le Dieu père fouettard. C'est un Dieu qui persévère à quelque part dans l'espérance qu'il y aura à un moment donné une réaction. Un peu comme si vous êtes parents d'enfants dans des âges un peu sensibles qui sont pas très obéissants, qui sont même parfois dans la révolte, vous guettez le moindre signe. Moindre chose qui pourrait se passer, qui pourrait changer la situation. Eh bien, c'est avec cette attente-là qu'on voit tout le livre de Jérémie se dérouler. Et ça me touche beaucoup. Ce qui fait que on voit que Dieu constamment diffère son jugement, même des rois qui ont été idolâtres. Dès qu'ils sont un tout petit peu repentis, Dieu a différé le jugement. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça me parle parce que, je ne vous cache pas que c'est cette notion de jugement, aussi sur les nations, ça turlupine pas mal quand même. Et si on lit les prophètes, on se dit, mais Seigneur, où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est sur la planète? Où est-ce qu'on en est en Occident? Où est-ce qu'on en est en Suisse? Où on bafoue les règles d'éthique? On est constamment à mépriser Dieu? On évacue la foi des écoles, de plein d'endroits où habituellement elle pouvait s'y manifester. L'injustice sociale et beaucoup d'autres choses. Et finalement, une parole plus loin, Dieu s'interroge sérieusement. Qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire l'eau du Nil? Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire l'eau du fleuve? Et c'est vrai que dans les périodes de crise, Israël avait tendance, quand il y avait aussi des menaces d'ennemis extérieurs, à essayer de trouver l'appui de grandes puissances, comme l'Égypte ou comme la Syrie. Mais derrière ces paroles, On se souvient aussi qu'en Égypte, ben voilà, quand Moïse a commencé à, bien sûr avec l'intervention de Dieu derrière lui, à manifester des miracles, les magiciens d'Égypte ont aussi pu imiter ces miracles. Et personnellement, je voudrais juste ouvrir aujourd'hui un aspect de ces dimensions d'aller puiser de l'eau, de boire à d'autres sources, en lien justement avec cette spiritualité du Nouvel Âge, ou cette spiritualité qui nous entraîne aujourd'hui dans le domaine de l'occultisme, du spiritisme. L'occultisme, c'est toutes ces choses qui sont cachées, avec des fois des prières pour... voilà, on a un guérisseur qui a le secret, ou bien des devins, des médiums. J'ai lu il y a quelques semaines un article dans le Courrier international qui parlait des sorcières d'aujourd'hui. Ces fameux influenceurs ou influenceuses sur Internet qui ont des millions de followers, de suivants, ce sont des points de repère, et des gens qui les contactent pour pratiquer la magie blanche, c'est-à-dire pour des guérisons, ou au contraire la magie noire pour jeter des sorts, maudire des voisins qui nous ont fait du mal, etc. C'est assez étonnant, mais ce sont des réalités. Et ces eaux du Nil, de l'Euphrate, symbolisent un petit peu ces courants de pensée qui peuvent être là, ces formes aussi de philosophie, parfois courants idéologiques, dans lesquels on pense pouvoir étancher sa soif. Et je suis étonné à Pompéi, par exemple, de voir le nombre de jardins où il y a des bouddhas. Ça me surprend. Parce que par ailleurs, il y a aussi pas mal de chrétiens à Pompéi, mais je me dis, j'avais déjà vu ça sur la côte, à Nyon, où c'était mon dernier poste pastoral, mais j'ai vu des fois des maisons remplies de bouddhas. Je me dis, purée, oh, qu'est-ce qui se passe là? Alors, quelques témoignages pour illustrer tout ça. J'ai visité il y a peu de temps une personne dans un village. Et puis, dans un excellent échange, une chrétienne engagée. Et puis, d'un coup, il y a le chien qui arrive. Un brave toutou. Moi, j'aime bien les chiens. Je l'ai caressé un petit peu. Puis, je dis, mais ça va bien, il a quel âge, etc. Puis, il me dit, oh, il commence à être âgé, ça ne se voit pas, mais il est souvent malade, il est souvent mal fichu. D'ailleurs, j'ai dû faire intervenir, elle me dit, le nom du guérisseur qui habite dans ce village. On se calme. Voilà, on a eu un excellent échange. C'est une dame qui a passé par pas mal d'épreuves ces temps. Et puis... finalement, je lui pose des questions à propos de sa santé. Comment ça va, Péo? Ben, ça fait plusieurs mois que j'ai des infections à répétition, etc. Bon, ça m'interrogeait quand même. Alors, ça bouillonnait intérieurement, mais finalement, je ne lui dis pas. Je lui dis, ben, je vais quand même essayer de lui tendre une perche. Puis je lui dis, mais si vous permettez, ça m'étonne quand même que vous fassiez venir un guérisseur pour soigner votre chien. Oui, je sais bien, il n'a pas bonne réputation, mais c'est un homme qui aime les bêtes. Et puis je ne le ferai en tout cas pas venir pour d'autres choses. Bon. Je n'ai pas pu m'empêcher de poser des questions par rapport à ses problèmes de santé récurrents ces derniers mois. Peut-être qu'il n'y a pas du tout de connexion. Mais... quand même, j'avais eu quelques mois auparavant un contact aussi avec un homme de la région. Et puis voilà, on s'est rencontrés, puis j'ai demandé des nouvelles de son épouse, puis elle m'a dit, ouais, elle a des gros problèmes de santé. Alors elle va de temps en temps chez le guérisseur là-bas. C'est un homme qui apparemment se considère comme chrétien. Hein. Je dis, oh, puis, alors je dis, mais je pense personnellement, en tout cas, pour avoir un peu travaillé ces sujets, que le problème des guérisseurs, c'est qu'ils ont un secret. Bon, c'est juste une formule comme ça, qu'ils ne peuvent pas donner à d'autres. Mais peut-être qu'on est guéri dans un domaine, mais ensuite, il y a d'autres difficultés qui vont apparaître, d'autres maladies. Parce que là, derrière, il y a vraiment Satan. Et il faut bien en prendre conscience. Je Je pense aussi à une situation d'un agriculteur de la région qui, pour toutes sortes de raisons, a été conduit à faire venir un radiesthésiste sur son terrain, qui est venu avec son pendule. Un homme aussi qui se dit chrétien. Puis beaucoup de choses allaient de travers par la suite, pour ça que voilà, il y a eu aussi une possibilité de prier pour cette situation. Et on pourrait multiplier les exemples, et ça me frappe vraiment depuis que je suis là, depuis 2 ans, tant et tant de situations de ce type auxquelles j'ai été un peu confronté. J'ai lu aussi un témoignage récemment qui m'a beaucoup touché, une jeune chrétienne, jeune convertie, qui est allée dans une foire, comme ça, où il y avait notamment aussi, on pouvait consulter une voyante, puis elle est entrée sous la tente de cette voyante, puis cette femme lui a lu son avenir dans les lignes de la main, etc. Puis cette jeune femme était assez enthousiaste de ce qui lui avait été dit, mais au fil du temps, elle s'est rendue compte d'une chose. Chaque fois qu'elle pensait à son avenir, elle était très troublée. Elle avait un malaise profond. Ça lui tuait en tout cas sa paix, sa confiance dans le Seigneur. Elle s'en est ouverte à des personnes compétentes pour l'écoute, le discernement. Et puis, dans un temps de prière, tout d'un coup, cette jeune femme a été, par le Saint-Esprit, convaincue que cette démarche qu'elle avait effectuée auprès de cette voyante était quelque chose que Dieu ne voulait pas. Et que ce n'était pas si anodin que ça, et qu'il y avait comme un lien spirituel qui s'était formé avec le monde des ténèbres, et qui avait une incidence sur ce que cette jeune femme vivait. Et peut-être un dernier bout de témoignage, je redonnerai tout à l'heure encore quelques-uns, pour être plus positif. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais l'autre jour, moi j'ai reçu un téléphone, 079, etc. Bon, ma femme me dit, répond pas, 1h15, si c'était quelqu'un de connu, on saurait. Ben. Je dis, oh, ça me démange. Bonjour monsieur, je fais partie d'un cabinet de voyance et j'ai une très triste nouvelle à vous annoncer. Bon, je n'ai pas été un très bon chrétien, je me suis foutu en pétard. J'ai dit, mais madame, je refuse d'écouter vos paroles. Parce que mon avenir, il est dans la main de Jésus-Christ. C'est mon Seigneur. Je n'ai pas pu l'évangéliser plus loin parce qu'elle a bouclé. Et je me suis dit, peut-être j'aurais dû être plus gentil et puis la laisser parler, puis après lui demander si elle connaissait le Seigneur, mais bref, voilà. Alors, laissons-nous interpeller par la parole, et je pense que ce n'est pas inutile de relire 2 ou 3 textes avant de vous redonner quelques témoignages. Parole dans le Deutéronome, donc ces livres de base parmi les 5 premiers livres de la Bible, ce qu'on appelle le Pentateuch, où Dieu instruit son peuple. Sachant que dans la terre promise, en entrant dans la terre promise, il va être confronté à des nations qui pratiquent couramment l'occultisme et le spiritisme. Encore une fois, Israël avait été confronté en Égypte déjà, aux magiciens, etc. Mais par la suite, tous les peuples qui sont en Canaan, ils pratiquent ces arts divinatoires et c'est un peu du tout et n'importe quoi. Ils offrent des sacrifices, même d'enfants, aux faux dieux, etc. Ce qui est triste, c'est qu'Israël, à un moment donné, va aussi faire des sacrifices d'enfants. Se laisser interpeller par la parole. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques abominables de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien. Personne qui consulte les esprits ou les spirites. Personne qui interroge les morts. En effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel. Et c'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras tout entier à l'Éternel, ton Dieu. En effet, les nations que tu vas chasser écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. L'Éternel, ton Dieu, fera surgir pour toi et du milieu de toi, parmi les frères, un prophète comme moi. C'est lui que vous devez écouter. C'est pas rare que je rencontre des chrétiens qui consultent des horoscopes. Qu'est-ce qu'on risque ? Israël aussi, quand il n'y avait pas de pluie dans le ciel, des fois, et puis que c'était la saison des pluies, ils demandaient à Dieu d'envoyer la pluie, et puis si ça ne venait pas, ils se tournaient vers les dieux Baal, le dieu de l'orage, le dieu Baal. Et puis, dans tous les bons journaux, il y a un horoscope. Puis, de temps en temps, c'est quand même tentant d'aller voir. Non ? Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous dit ? Ben, il nous dit son amour, hein, je crois aussi. On en dira deux ou trois mots tout à l'heure, par rapport à ces praticiens de l'occultisme aussi. Dans Acte 19, il y a des praticiens de l'occultisme, des Juifs d'ailleurs, à Éphèse, et puis, à un moment donné, il y a un mouvement de conversion extraordinaire. Et puis, on voit qu'il y a plein de croyants qui viennent apporter des livres de magie pour les faire brûler. Donc, c'est possible qu'on ait parfois dans nos familles ou soi-même des ouvertures dans ces domaines, ou des petits médaillons des fois. Moi, je vois des fois, ça m'est arrivé une fois dans un voyage, dans mon groupe, une dame, elle avait son signe du zodiaque. Ça m'a étonné parce que c'est une chrétienne consacrée. Alors que notre signe à nous comme chrétiens, c'est celui de la grâce de Dieu normalement, mais bon. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ça, c'est Jésus qui le dit avant de quitter ses disciples, avant la destruction de Jérusalem. Je me pose la question, en Suisse actuellement, où on est l'amour du plus grand nombre ? Pour le Seigneur. Je me pose aussi la question, je me remets en question dans mon engagement avec le Seigneur. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Souvent, cette parole me semblait inadéquate. Pendant des années, je me disais, ouais, mais il y a partout des croyants. Hein, puis on a, moi, j'ai découvert le Seigneur dans les années 1975. Il y avait un bouillonnement suisse romande. Je me disais, mais cette parole n'a pas tellement lieu d'être. Il y a tellement de choses qui se passent. Il y a des conversions, etc. C'est fantastique. Bien sûr qu'il va trouver la foi. À l'église d'Éphèse, église formidable, hein, où Paul a passé 3 ans. Dans cette ville d'Éphèse. Il enseignait tous les jours dans l'école de Tyrannus. Il a formé des centaines de disciples. Ça a ouvert toutes les églises aux alentours, qui sont les églises citées dans le livre de l'Apocalypse. Hein. Éphèse, c'est en Turquie, hein, une parenthèse. D'abord, le Seigneur souligne ses qualités, mais il dit, mais où est ton premier amour ? Ta joie d'être dans ma présence ? De passer du temps avec moi. Où est-il ce premier amour ? Hein ? Ce sont des questions qu'on peut avoir. Alors, je rencontre aussi sur ma route, et je vais bientôt finir mes propos, en rencontrant aussi des situations qui sont touchantes et magnifiques par rapport à des croyants qui ont le premier amour pour le Seigneur. Et ça, c'est magnifique, c'est fantastique. J'ai entendu dans un culte il y a peu de temps, une dame, elle n'est pas là, hein, je crois. Elle habite Cossonay. Mais je crois qu'elle va dans une autre église. Je me suis dit, si elle est là, je la fais témoigner. C'est magnifique, sa chef vient vers elle et lui dit, écoute, je suis triste, il y a mon chaton là, qui est super, il a disparu. Tu ne connaîtrais pas une voyante qui pourrait me permettre de le retrouver. Et puis cette dame, elle dit, mais tu sais bien que Moi, je peux pas te donner des adresses de voyantes parce que moi, je crois en Jésus. Ah oui, mais c'est vrai. Ouais. Excuse-moi, oublie tout, oublie tout. Cette dame, il dit, mais écoute, mais je vais prier pour que tu retrouves ton chaton. Le lendemain, pas de chaton. Pour faire court, le chaton est revenu un mois après. Mais il est revenu. Puis apparemment, la patronne n'a pas cherché un recours à... Voilà, elle a pris conscience de quelque chose. Mais je trouvais super ce témoignage. Ça pose un peu toute la question là derrière, de savoir comment est-ce qu'on se situe par rapport à des gens qu'on connaît certainement, des collègues de travail, des voisins, etc., où on sait qu'ils ont recours à des guérisseurs, etc. Deuxième histoire. Touchante, d'une dame dans notre groupe de prière à Pompigny, toute excitée il y a quelques mois. Elle dit, voilà, on a eu une réunion de famille. Et puis, il y avait là ma petite nièce, 2 ans, qui était sur les bras de sa maman. Et tout d'un coup, bon, voilà, une tasse de thé chaude qui se renverse sur la poitrine de cette petite nièce. Oh, panique à bord. La petite fille qui hurle, bien sûr. Et puis tout de suite, qui a l'adresse d'un coupe-feu? Qui a l'adresse d'un guérisseur, quoi? Qui a le téléphone? Qui a panique? Et puis cette chrétienne... Elle m'a dit, j'ai téléphoné pour bien préciser les détails l'autre jour, elle dit, mais ça bouillonnait avec Jésus à l'intérieur. Et j'ai dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas prier surtout, demander au Seigneur d'intervenir? Ok, elle a demandé l'autorisation aux parents de bénir la petite. Elle a dit, instantanément, elle s'est calmée, les douleurs ont disparu. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup touché, ce témoignage. Une simple croyante qui a osé se positionner de la sorte dans sa famille, qui n'était pas forcément engagée. Sa famille, certains avaient entendu parler de l'Évangile, etc. Hein, mais m'a dit, pas beaucoup de gens engagés. Hein. Alors, ça, c'est un autre aspect, je dirais, de ce partage ce matin, parce qu'à l'évidence, on est entouré, environné de personnes qui n'ont pas vraiment entendu l'Évangile ou qui ont entendu, mais sont encore un peu confuses, peut-être en partie à cause de notre faute en tant qu'Église, pasteur, etc., parce qu'on n'a pas su annoncer l'Évangile de la bonne manière. Mais c'est un défi. J'ai vécu quelque chose avec un voisin, il y a 2 ans, qui... Voilà, un gars qui vient arriver, un couple, dans nos maisons, là où on habite. Puis je le vois se promener avec un seau, grand seau comme ça, rempli de clés. Je dis, mais ah bon, tu collectionnes les clés? Elle me dit, mais non, mais j'ai perdu ma clé de cave. Alors j'ai téléphoné à une voyante, elle m'a dit que c'était dans une de mes poches pantalons, mais ça m'en kikine de chercher. Alors je savais que là, le menuisier il est du coin, Il a des clés, alors je suis allé chercher ses clés chez lui, puis c'est pour ça. Alors, moi aussi, ça bouillonnait à l'intérieur, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? Finalement, j'ai dit, bah, écoute, je te propose de t'aider, je vais chercher ma clé de cave, puis on va comparer, on va déjà trier. Puis voilà, c'est ce qu'on a fait, on était les deux à genoux, on a trié, puis voilà. Et je me suis dit, j'essaie de lui manifester un geste d'amour, je l'accueille comme il est, avec ce qu'il est aujourd'hui, et puis j'espère que ça peut créer un lien avec lui. Et puis effectivement, ça fait 2 ans maintenant, bon, j'ai un bon lien avec lui, progressivement j'espère avoir une fois une ouverture pour aller un petit peu plus loin. C'est un peu trop tôt à mon avis. Peut-être que je me trompe, mais voilà, j'y vais mollo. Et puis, vous savez, les hommes parmi vous savent que j'aime beaucoup la pétanque. Et à la pétanque, à Montrichet, j'ai un sacré défi à cet égard. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps un homme, c'est rare que les gens me demandent ce que je fais, puisqu'on est presque tous des retraités, mais moi j'avais posé la question d'abord, il m'a dit qu'il était ergothérapeute spirituel. C'est pas mal, ergothérapeute spirituel. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu as eu comme formation? Il m'a dit, oh ben je me suis formé tout seul, ça a pris des années, c'était progressif. Pas mal comme formation. Hein. Bon, on sait que dans les milieux médicaux, des fois, il y a des choses bizarres, comme au CHUV, on vous donne une liste de guérisseurs quand on ne peut plus rien faire pour vous, que vous êtes dans des souffrances. Oui, mais... Que ferais-je dans cette situation? Mais c'est pourquoi je crois que c'est bien qu'on puisse se préparer. Alors, je termine avec cette parole. Voici ce que dit l'Éternel, c'est aussi dans Jérémie. Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain, qui prend des créatures pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est pareil à un buisson sur un sol stérile. Il ne voit rien venir de bon. Il habite les endroits brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Parole qui est quand même rude, hein? Mais béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse de porter du fruit. Nous voulons prier. Merci Seigneur, parce que tu restes ce Dieu de miséricorde et de compassion. Ce Dieu de grâce. Mais néanmoins, tu es aussi ce Dieu de justice, tu es ce Dieu de sainteté. Seigneur, pardon pour tous nos égarements, pour tous mes égarements en cours de route. Et peut-être qu'à travers ces réflexions sur Jérémie, tu parles à nos cœurs. Nous avons des domaines que ton Saint-Esprit nous montre, où nous avons peut-être fait fausse route. Et pardon de tout cœur, Seigneur. Et purifie-nous par ton sang précieux. Merci parce que, Seigneur, on peut intercéder aussi pour toutes les personnes que nous connaissons dans nos familles, ou des amis que nous aimons bien, ou des personnes qui sont sur notre route et qui sont des adeptes de l'occultisme et du spiritisme. Nous prions pour eux, nous intercédons pour eux, pour que tu leur révèles ton amour. Et puis, Seigneur, si nous aurions tôt ou tard à être des témoins auprès de ces personnes, pour saisir une perche qu'ils nous tendraient ou pour les interpeller, parce que ça bouillonne à l'intérieur, donne-nous ce courage de pouvoir, avec amour, tendre une perche qui pourrait permettre d'aller plus loin et leur donner l'occasion d'être remis en question et de te rencontrer. Au nom de Jésus-Christ. Amen.